Le journal d'Amélie Gerbert.
Bonjour, le Parlement jurassien accueille aujourd'hui une délégation de l'Assemblée nationale du Québec, visite au cours de laquelle une entente interparlementaire entre les deux législatifs a été signée. Dans un instant, en direct, Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Les Suisses s'en remettent au Conseil fédéral pour avoir des réponses face aux taxes douanières des États-Unis. C'est ce que montre un sondage de l'Institut Ipsos, l'analyse de notre correspondant à Berne. Le HC Ajoie enregistre l'arrivée d'un nouvel attaquant. Elvis Schlepfer posera ses valises à Porrentruy. Le club annonce par ailleurs les prolongations de Thibaut Frossard, Bastien Pouilly et Kevin Boson. De son côté, le HC Franche-Montagne doit se trouver un entraîneur. Vincent Leschène et le club de My Hockey League ont mis un terme à leur collaboration. Le temps maussade nous accompagnera encore tout au long de la journée. Des nuages accompagnés de précipitations couvriront le ciel. Le mercure atteindra les 12 degrés en pleine au meilleur de la journée et les 8 degrés à 1000 mètres. Le Jura et le Québec célèbrent leur amitié. La délégation de la Belle Province, qui est en visite officielle dans le canton, s'est rendue ce matin devant le Parlement jurassien. La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, a tenu un discours devant les députés. Une entente interparlementaire entre les deux législatifs a ensuite été signée. Le document vise notamment à créer une association parlementaire Jura-Québec. La délégation visite le canton depuis hier et jusqu'à demain à l'invitation de la section jurassienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. François Comte, nous recevons en direct dans nos studios la présidente de l'Assemblée nationale du Québec.
Nathalie Roy, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le Jura.
Merci.
Votre délégation est arrivée hier dans le Jura. Quelles sont vos premières impressions ?
Coup de foudre. C'est de toute beauté. Je dois vous avouer que personnellement, c'est la première fois que je foule le sol jurassien, également le sol suisse, et que c'est un coup de cœur assuré. Mais outre la beauté des paysages, la fraîcheur de l'air, ce sont les gens. C'est un coup de cœur, un coup de foudre avec les jurassiens. Et on se ressemble tellement, Québécois, jurassiens, c'est fou.
C'est vrai que nous avons beaucoup de choses en commun et ce coup de foudre, ce coup de cœur, est-ce que vous allez le prolonger via cette entente parlementaire qui a été signée avec le Parlement jurassien ? Dans le fond, qu'est-ce que vous attendez de ce document ?
Des échanges. Et je me suis toujours dit, je suis arrivée en fonction en 2022, comment se fait-il que l'Assemblée nationale du Québec, qui a plusieurs ententes bilatérales avec d'autres assemblées législatives à travers le monde, comment se fait-il qu'elle n'en a pas avec la Suisse et de surcroît avec des cantons qui sont francophones, parce que ce sont ces valeurs communes aussi qui nous unissent à la base et qui nous permettent de nous développer davantage, de nous connaître, de mieux nous connaître, d'apprendre les uns des autres. Donc, ça m'a toujours frappée. Comment se fait-il qu'on n'a rien avec la Suisse, alors qu'une entente gouvernementale, elle, avait déjà été signée par le passé en 1983, si je ne m'abuse. Mais il n'y avait pas d'entente interparlementaire. Alors, je me suis dit, mais il faut changer ça. Alors, donc, c'était dans mes souhaits. Et l'été dernier, à Montréal, lors d'un des bureaux de l'APF, qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, étaient réunis naturellement les parlementaires de toute la planète qui font partie de l'APF, et donc une délégation suisse et jurassienne. Et c'est là que j'ai rencontré M. Comte, que j'avais déjà rencontré, mais nous nous sommes mis à parler, et M. Comte m'a fait part de son amour, entre autres, pour le français, pour la langue française, et je lui ai dit, mais comment se fait-il que nous n'avons pas d'entente entre nos deux parlements. Et nos équipes se sont mises à travailler là-dessus et tous les parlementaires jurassiens se sont dit que, pourquoi pas, allons de l'avant avec cette entente interparlementaire. J'en suis très, très fière. Ça s'est signé ce matin. Et j'étais très émue. Vous savez, parler devant un parlement, c'est un honneur, c'est un privilège. D'abord, être élu, c'est un privilège. Les citoyens vous choisissent. Ça, ils mettent un X ou un petit crochet à côté de votre nom, c'est incommensurablement touchant. Mais par la suite, mettre l'uniforme, l'habit d'élu et d'avoir le privilège d'entrer dans une enceinte parlementaire pour représenter vos citoyens, ça, c'est troublant, c'est touchant, vous vous sentez investi d'une lourde responsabilité et quand un parlement ami vous invite à venir prononcer un discours, là, c'est l'apothéose. C'est vraiment touchant.
Alors, ça a été fait donc ce matin. Vous l'avez dit, une des choses que nous partageons, c'est le français, la langue française. Vous avez beaucoup parlé de ça dans votre discours. Le français, aujourd'hui, au Canada, quel est son état de santé, si je peux dire? Comment ça se passe? On a l'impression que c'est quand même toujours un combat, la langue française au Québec.
Ce l'est toujours, parce que le Canada est immense, comme vous le savez. Il y a 40 millions de Canadiens maintenant. Et là-dessus, ben, il y a 9 millions de Québécois. Donc, les 9 millions de Québécois qui ne sont pas tous francophones, mais une grande majorité, plus de 80 % de la population est francophone. Mais cela dit, nous sommes quand même une minorité au sein d'un pays qui, lui, est anglophone. Donc, la protection des langues des minorités, ben, au premier chef, nous comprenons ce que ça signifie puisque nous sommes minoritaires dans ce pays. Mais à l'intérieur du Québec, notre province dont le dicton est maintenant « Je me souviens », donc à l'intérieur du Québec, oui, le français est majoritaire, mais il faut constamment le protéger. Et comment se porte-t-il? Mais on se rend compte qu'il y a plus en plus de Québécoises et de Québécois qui adoptent dans leur quotidienneté l'anglais, la langue anglaise, parce que c'est une langue, disons-le, plus facile aussi. Quand on pense à tous nos nouveaux arrivants, souvent ils arrivent au Québec et se disent c'est le Canada, il y a deux langues, l'anglais et le français, mais il faut constamment rappeler à la communauté et à la planète que le Québec est cet État qui a décidé d'être unilingue francophone. Donc, dans tout le Canada, la seule province francophone, c'est le Québec. Toutes les autres sont anglophones, on va se dire la vérité. Donc, il faut absolument protéger la langue française. Au Nouveau-Brunswick, pour ceux qui nous écoutent, je salue mes amis et Néo-Brunswickois, les deux langues sont officielles, mais chaque province s'autodétermine à cet égard-là. La Constitution canadienne le permet. Donc, le Québec a décidé d'avoir comme langue officielle le français, mais on doit toujours la protéger, cette langue, compte tenu effectivement du flux migratoire qui fait en sorte que trop de personnes se tournent vers l'anglais. Parce qu'il faut l'apprendre, le français. Donc, ça, et le Québec assume ses responsabilités à cet égard. Il y a des sommes importantes qui ont été investies, entre autres pour la francisation des nouveaux arrivants. Il y a des gens qui nous viennent de tout partout pour vivre ici, au Québec, pardon, pour vivre avec nous. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait cette intégration et qu'il y ait cet engagement du nouvel arrivant d'apprendre le français. Mais force est de constater qu'il y a, et ça c'est particulier, chez les francophones et les jeunes francophones, un usage de l'anglais qui augmente. Et là, je pense que c'est planétaire. Je pense même que dans des instances comme l'Union européenne, où l'anglais n'est pas une langue officielle, on se parle en anglais. Alors, vous comprenez que c'est un phénomène mondial. Donc, on doit toujours être vigilant et constamment nous assurer qu'avec certaines dispositions législatives, le français prenne sa place, qu'on protège le français, qu'on mette des incitatifs, qu'on encourage, en fait, la francisation, qu'on paie pour franciser nos nouveaux arrivants. Alors, tout ça est extrêmement important pour nous parce que c'est sensible. Puis, juste en bas de la frontière, on a les États-Unis. Alors, on est vraiment entouré d'une mer d'anglophones.
Alors, c'est effectivement important, la défense de la langue française, et on a ça en commun avec le Jura. Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, merci d'avoir été en direct dans ce journal de 12h15.
C'est trop court.
Très belle journée. On pourrait effectivement parler du français pendant des heures. Très belle journée à vous, et puis bon séjour dans le Jura.
Merci infiniment. Bonne journée, tout le monde.
Il est important de maintenir le droit à l'indemnisation pour RHT jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'a répondu le gouvernement ce matin à une question orale de Patrick Cerf posée devant le Parlement. En temps normaux, l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est possible pour 12 mois dans un délai cadre de 2 ans. Mais compte tenu des difficultés conjoncturelles rencontrées par les entreprises industrielles, le Conseil fédéral a décidé en juin dernier de l'étendre à 18 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2025. Le député socialiste Patrick Cerf souhaiterait même une prolongation à 24 mois. La réponse du ministre de l'Économie, Stéphane Théréa.
Dans la situation actuelle, sans nouvelle prolongation du Conseil fédéral, le nombre de mois d'indemnisation possible durant le délai cadre reviendrait donc à 12 mois à partir du 1er août 2025. C'est pourquoi le gouvernement soutient les démarches menées par les organisations patronales pour prolonger le maintien à 18 mois jusqu'à la fin de l'année 2025. Le service de l'économie et de l'emploi suit de très près l'évolution de la situation en collaboration avec les autres cantons et le SECO. Ce dernier prend lui aussi la situation très au sérieux et entreprend tout son possible pour ne pas mettre les entreprises en difficulté. Mais au final, il revient au Conseil fédéral de décider une prolongation du droit de la RHT à 18 mois au-delà du 31 juillet 2025. En ce qui concerne une éventuelle prolongation de la RHT à 24 mois, elle est très peu probable dans l'immédiat car elle exige une modification de l'article 35 de la loi sur l'assurance chômage. Vu la durée de traitement d'un dossier relatif au niveau des chambres fédérales, une prolongation à 24 mois ne déploierait ses effets qu'au mieux dans plusieurs mois.
La mue est terminée pour le Jura Centre à Basse-Cour. Après 2 ans de travaux et un investissement de 17,7 millions de francs, le centre commercial ouvre ses portes dans sa nouvelle configuration aujourd'hui. La COP à elle seule a investi 9,5 millions de francs pour son magasin et 2 millions dans la transformation du restaurant. La production de chaleur du bâtiment se fait désormais au pellet et non plus au mazout. 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques supplémentaires ont été installés, portant l'ensemble de la centrale à 6 600 m². Les délégués de la Fédération suisse du cheval Franche-Montagne étaient réunis hier au Grison. Au programme de l'Assemblée, de nombreux points comme les comptes 2024 ou le budget 2025, le renouvellement de mandat de 3 membres du comité, mais aussi et surtout de nouvelles directives sur les marques blanches. La gérante de la FSFM, Pauline Quelot, revient sur ces directives.
Elles ont été modifiées. Les délégués ont accepté une proposition du comité de la Fédération Suisse du Franche-Montagne pour modifier ces règles qui seront non plus basées sur un contrôle visuel du cheval, mais sur un contrôle basé sur les valeurs d'élevage du cheval. Donc quelque chose d'un peu plus scientifique, basé sur des valeurs génétiques.
En quoi est-ce important justement d'instaurer ce type de directive ?
Les directives sur les marques blanches ont été instaurées pour la toute première fois en 2016 parce que le cheval Franche-Montagne est ainsi fait qu'il n'a pas trop de marques blanches, pas trop de blanc sur le corps. Historiquement, le cheval des Franches-Montagnes, il est comme ça, il appartient au paysage des Franches-Montagnes comme ça, sans trop de marques blanches. C'est pour ça que des règles avaient été mises pour que ce blanc ne se propage pas trop chez les chevaux. Et puis ces règles étaient, comme je l'ai dit, basées sur un contrôle visuel depuis 2016. Et puis maintenant, on a décidé de changer ça pour avoir un contrôle un peu plus objectif. Bon, c'est un sujet toujours très émotionnel, assez controversé, parce qu'on constate quand même des avis différents, surtout entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Les Suisses allemands aiment bien les marques blanches, le blanc chez le cheval, c'est assez tendance actuellement. La Suisse romande, les Jurassiens en particulier, aiment leur cheval sans trop de marques blanches et tenait à ses règles. Donc voilà, il y a eu des débats, il y a eu des contre-propositions, puis finalement les délégués ont réussi à se mettre d'accord sur une proposition.
Pauline Quelot était l'invitée de Loïc Georgi dans la matinale. Retrouvez un entretien complet en vidéo sur rfj.ch. On revient sur les défis en termes de finances qui attendent la FSFM dans le journal de 18h. Groupe E va supprimer près de 200 emplois en Suisse romande. L'énergéticien l'a annoncé ce matin. De par ses recettes qui ont baissé en 2024, la performance opérationnelle a nettement reculé. Manque de rentabilité des très grands chantiers, baisse significative des ventes de pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques. Voici quelques-unes des explications fournies par l'entreprise. Les 188 suppressions de postes interviendront dans le courant de cette année ou début 2026, selon un communiqué. Comment réagir face aux taxes douanières imposées par les États-Unis de Donald Trump ? Les Suisses sont très divisés sur la réponse à donner et s'en remettent majoritairement au Conseil fédéral. C'est l'enseignement d'un sondage de l'Institut Ipsos dans le journal Le Temps, publié ce matin. Les détails avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Premier renseignement du sondage, 90% des Suisses interrogés estiment qu'ils seront affectés par les taxes américaines et presque autant sont d'avis qu'elles auront un impact négatif sur l'économie suisse. Comment réagir ? Aucune formule ne convainc vraiment. 5 réponses obtiennent entre 8 et 28% d'avis. C'est le reflet d'une grande incertitude, précisent les auteurs de l'étude. Première option pour 28%, sans écart entre romans et alémaniques. Il faut attendre et voir comment évolue la situation avant de prendre des mesures. Puis pour 22%, avec un soutien marqué en Suisse alémanique, négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis, même s'il devait être défavorable à l'agriculture. 21% préfèrent un rapprochement avec l'Union européenne, un postulat davantage soutenu par les Romands, et 20% pensent que la Suisse devrait augmenter ses propres droits de douane en représailles. Et 8% ne savent que faire. Face à l'incertitude, une majorité de 53% s'en remet au Conseil fédéral. Surprise, ce sont les plus jeunes qui expriment leur confiance envers le gouvernement à 62%. Les plus de 55 ans sont bien plus méfiants envers leurs ministres.
RFJ, il est 12h29.
RFJ. Sport.
Le contingent du HC Ajoie prend forme. L'attaquant Elvis Schlepfer jouera sur la glace de Porrentruy l'hiver prochain. Thibaut Frossard, Bastien Pouilly et Kevin Boson ont de leur côté prolongé, a annoncé ce matin le club jurassien de hockey sur glace. Les précisions de Régis Cerf.
Elvis Schlepfer n'est autre que le fils de Kevin Schlepfer, ancien entraîneur de Bienne. Le centre de 24 ans a vécu un dernier exercice assez compliqué durant lequel il a d'abord joué 28 matchs avec Bienne avant de rejoindre Berne pour y disputer 25 parties. L'attaquant a signé un contrat d'une saison avec le HCA. Les jaunes et noirs ont aussi prolongé les contrats de Thibaut Frossard pour 2 saisons et Kevin Boson pour 1 an. Quant à Bastien Pouilly, il a vu son option pour la saison 25-26 être activée. Petteri Noumeline, de son côté, continuera d'évoluer en tant qu'assistant de l'entraîneur principal Greg Ireland. La légende du hockey finlandais a paraphé une nouvelle entente de 2 saisons avec le HC Ajoie.
De son côté, le HC Franche-Montagne se sépare de son entraîneur. Le club ténon de My Hockey League a annoncé hier soir le licenciement de Vincent Leschène. L'ancien coach assistant du HC Ajoie était arrivé à Seignelay en janvier 2024. La saison dernière, il a mené le HCFM jusqu'en quart de finale des playoffs de 3e division. Vincent Leschène avait encore un contrat valable pour l'exercice à venir, mais des divergences de vues ont conduit à la séparation entre les deux parties. Les explications du directeur sportif du HC Franche-Montagne, Michael Rotenmund.
En fin de saison, on fait un bilan, que ce soit avec les coachs, avec les joueurs. Et puis là, on a remarqué qu'il y avait quelques soucis, que les joueurs n'étaient peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde que Vincent. Et puis, c'était plus d'ordre d'organisation d'équipe en général. Et puis, malheureusement, on a dû prendre cette décision.
Est-ce que c'est une situation dans le vestiaire qui durait depuis un certain temps?
C'est clair qu'il y a toujours des petits soucis dans une équipe. On les pensait d'abord anodins, mais c'est vrai que c'est réellement en fin de saison, quand on a entendu les joueurs, qu'on a remarqué que c'était un peu plus grave que ce qu'on pensait.
Est-ce que vous avez certaines idées quant au nom du futur entraîneur qui sera à la bande du HC Franche-Montagne?
On a une idée quant au profil. Moi, je cherche quelqu'un de minutieux, de très organisé, qui laisse pas de place au hasard. Le but, c'est vraiment d'avoir un entraîneur pour débuter les entraînements sur glace. Mais c'est vrai que si on peut boucler ça dans les 5-6 semaines, ça serait idéal.
Michael Rotenmund était au téléphone de Nicolas Meusy. Notre rédaction a tenté de joindre Vincent Leschène sans succès. Le HCFM débutera sa préparation estivale en mai avec un retour sur la glace prévu en août. Le 4 à la suite dans le viseur du FC Ajoie Montéry en deuxième ligue interrégionale. Les footballeurs ajoulots sont 5e du classement et reçoivent ce soir le 6e, la réserve du stade Lausanouchi. Le coup d'envoi sera donné à 20h15 à Courgenay. En cas de 4e succès de suite au championnat, Ajoie Montéry peut revenir à hauteur du 2e du classement. Le trophée jurassien de VTT est de passage en Ajoie pour sa 2e manche. Les TG Series de Porrentruy se disputent ce soir dès 19h. Les participants s'expliqueront sur un tracé de 10,8 km pour 268 mètres de dénivelé positif dans la forêt au-dessus de l'hôpital. Le classement général est dominé par le français Quentin Gardet et la jurassienne Sandra Stadelmann qui avait remporté la manche inaugurale à basse-cour il y a 2 semaines. C'est la fin de ce journal. Très belle journée.